Bonjour Thibaud de Rouvray.
Bonjour Mathias Terrier.
C'est toujours une joie de vous entendre pour nous éclairer sur notre patrimoine et en l'occurrence vous proposer de nous emmener déambuler dans les cloîtres. Pourquoi? Parce qu'on vous doit ce livre, Le cloître du jardin Masset. C'est peut-être cela qui a déclenché ce rendez-vous, ces chroniques-là, parues aux éditions Jour des Arts. Le jardin Masset, il est à Tarbes. Mais il a une structuration, ce cloître du jardin Masset, on peut le dire, qui nous résume assez bien l'histoire des cloîtres.
Oui, il est tout à fait. Alors même s'il se trouve à Tarbes, il est tout à fait représentatif d'autres illustrations, d'autres exemples que l'on trouve sur l'ensemble de la région. Voilà, depuis l'Aveyron jusqu'aux Cévennes, on peut avoir d'autres illustrations tout à fait comparables.
Nous aurons l'occasion de consacrer une émission spéciale à ce livre, mais cette fois-ci, si vous le voulez bien, on va parcourir notre région avec, on pourrait l'intituler cette émission « L'histoire des cloîtres ». Une fois qu'on s'est dit la dernière fois l'origine, et puis comment ça accompagne un désir d'une vie particulière, isolée, fermée, cloîtrée, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un grand développement à travers même des styles architecturaux du cloître un peu dans notre région? On peut peut-être parcourir, regarder ensemble.
Oui, alors c'est vrai que ce modèle de cloître, il est héritier des moines bénédictins, depuis probablement le haut Moyen-Âge, en tout cas depuis l'Empire carolingien, et dans la région, on en a des illustrations. Même si le plan reste le même, la décoration va évoluer au cours du temps, on a de très belles illustrations de cloîtres romans. Alors probablement un des plus beaux, celui de l'abbaye de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, qui est toujours intact. Et on en avait d'autres illustrations aussi à Toulouse. Malheureusement, ils ont pour la plupart étaient détruits, mais leurs chapiteaux, leurs sculptures sont toujours visibles, notamment au musée des Augustins. Je passe au cloître de Saint-Cernin, celui de la cathédrale Saint-Étienne ou de la basilique de la Dorade, par exemple.
Du gothique aussi, parce que vous nous parlez de cloître roman, il y a des exemples vraiment emblématiques de cloître gothique.
Oui, alors toujours à Toulouse, on peut citer le cloître des Jacobins, qui est très sobre, qui est un peu héritier du style cistercien, avec des chapiteaux très simples, mais voilà, qui illustre tout à fait cette tendance gothique, ou aussi l'un des plus grands, en tout cas au niveau du développement, c'est celui de l'ancienne chartreuse de Villefranche de Rouergue.
Et est-ce que les ordres monastiques ont influencé aussi le modèle du cloître? A-t-on d'ailleurs sur ce plan-là des exemples dans notre région?
Oui, alors c'est vrai que ce modèle, il est plutôt au départ poussé par l'ordre bénédictin, mais les ordres qui naissent au cours de l'histoire, comme les cisterciens par exemple, ou les moines mendiants, et même jusqu'à l'époque contemporaine, on pouvait évoquer évidemment les cloîtres plus récents de l'abbaye de Tancalcate ou de Tournai. Voilà, tous les différents ordres vont s'approprier ce plan, alors vont l'adapter. C'est vrai que chez les cisterciens parfois, comme il y a une communauté qui est un peu divisée entre moines et entre convers, on peut avoir deux cloîtres séparés, mais la cellule de base, le module, reste le même.
Bon, et comment ces cloîtres traversent-ils notre histoire? Parce que on peut se dire qu'ils sont protégés, fermés. Or, quand même, il y a eu des destructions. Je pense que les guerres et les combats et les vicissitudes de l'histoire ont aussi frappé, atteint les abbayes et donc les cloîtres.
Et oui, c'est vrai que les abbayes, contrairement à ce qu'on peut parfois imaginer, ont souvent des destins très mouvementés au cours du temps, avec des périodes de prospérité, mais aussi de grandes destructions, notamment à l'époque des guerres de religion, à l'époque aussi de la Révolution. Et puis parfois, il y a aussi la mode qui évolue et qui détruit des éléments anciens. Au XVIIIe, quand on a un peu d'argent et qu'on est un abbé ou un évêque, son rêve est de faire rebâtir sa cathédrale ou son abbaye dans le style classique. Et souvent, voilà, ça a pu entraîner aussi des destructions.
On peut dire que la Révolution a détruit beaucoup de cloîtres, tout de même.
Et oui, puisque la Révolution, c'est la fin en fait des ordres religieux. Donc tous les bâtiments affectés aux abbayes sont déclarés biens nationaux, sont vendus et vont avoir de nouvelles destinées. Alors soit ils vont devenir souvent le centre de grandes propriétés dans les campagnes, mais aussi en ville, ils deviennent des écoles, des casernes, des fonderies de canons. Et l'architecture, bien sûr, en pâtit.
Et donc, on se retrouve peut-être après la Révolution, notamment au XIXe siècle, avec des cloîtres détruits. Donc le cloître n'est plus concret, il est plutôt réinventé ou refantasmé.
Oui, alors c'est vrai que les premières années du 19e siècle correspondent vraiment, que ce soit dans la littérature ou dans l'art, au courant romantique, où on a beaucoup de dessinateurs, de graveurs, de peintres et d'auteurs, comme Chateaubriand ou Victor Hugo, qui déambulent dans ces grands espaces vides et ruinés et qui imaginent un peu ce que pouvait être la vie des moines avant qu'ils ne désertent les lieux.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous ces cloîtres? Ils ont été récupérés, donc vous nous l'avez dit, certains ont changé de destination. C'est toujours allé dans les mains, on va dire, publiques, je veux dire par là, de l'État, des autorités, ou bien ça parfois tombait aussi entre les mains de privés.
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Alors, effectivement, ces bâtiments qui ont changé de destination après la Révolution, souvent, ils sont en partie détruits. Et du coup, vont se retrouver sur le marché, parfois, un certain nombre de pierres sculptées d'époque médiévale, des chapiteaux, des colonnes, des éléments de mobilier. Et ils peuvent tenter, en fait, un public assez large.
Donc, ils sont démantelés, véritablement, pour être diffusés à travers différents objets qui peuvent être sculptés.
Oui, alors... Pour les moins chanceux, je dirais, de ces monuments, parfois ils sont totalement détruits, puisque notamment le cloître de l'ancienne cathédrale, enfin la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse, les chapiteaux sont récupérés et comme c'est du calcaire ou du marbre, on en fait de la chaux, donc on les détruit totalement. Mais parfois, heureusement, déjà des collectionneurs, ce qu'on appelle à l'époque des antiquaires, donc des chercheurs, les récupèrent. Alors, soit pour les mettre dans des musées, mais aussi certains collectionneurs et particuliers sont à l'affût de ces pierres.
Et certaines de ces pierres décorent même des édifices privés, de riches propriétaires.
Oui, au XIXe siècle, mais toujours un peu dans la lignée du courant romantique, il est de bon ton lorsqu'on a les moyens de se faire construire une villa, alors idéalement même sur les bords de la Côte d'Azur, avec des éléments récupérés d'architecture médiévale. Et là, on reconstitue des intérieurs, des cloîtres, où il y a presque parfois trop de colonnes, trop d'ouvertures. C'est tout à fait... Ces galeries sont très ouvertes vers l'extérieur, ce qui n'était pas le cas à l'origine. Voilà, c'est pour ça qu'on a par exemple la villa Roseland à Nice, une grande partie de colonnes qui proviennent de la dorade de Toulouse.
Est-ce qu'on a des exemples aussi dans la région d'éléments de cloître qui ont été, on va dire, ou d'éléments de façade, ou d'éléments architecturaux qui ont été replacés, donc démantelés puis replacés?
Oui, alors parfois, quand même, ces récupérations sont le fait de collectivités, de pouvoirs publics, de musées ou de sociétés savantes. On en a quelques illustrations à Toulouse. Au cours du 19e siècle, les bâtiments du Capitole, donc côté donjon, côté square, sont énormément reconstruits. Et les historiens s'émeuvent de la destruction de ces bâtiments anciens. Et des façades de différents bâtiments, de l'Arsenal, par exemple, ou du bâtiment de la Commutation, donc qui remonte au 16e, 17e siècle, sont démontées et rebâties dos à dos. Et elle forme de nos jours, et depuis 1886, une des entrées du jardin des plantes.
On a d'autres exemples de ce type dans notre région sur lequel vous pourriez attirer notre attention?
Oui, alors toujours au jardin des plantes, il y a un pan de mur des anciens moulins du château Narbonnais de l'époque médiévale. Quand on va à Collioure, dans les jardins du musée, le reste de cloître dominicain, et aussi toujours en Haute-Garonne, à Saint-Gaudens, des éléments du cloître cistercien de Bonnefonds.
Et qui se trouve square Azéma.
Voilà, tout à fait.
C'est ça. Et donc, c'est ça l'histoire aussi des cloîtres, c'est d'avoir été pour un certain nombre démantelés, d'atterrir à travers un morceau, un élément de l'architecture, dans tel ou tel endroit inattendu par rapport à l'origine même du cloître. Parlons des Américains. Pourquoi ? Parce que les Américains aiment l'architecture, aiment la grande histoire, peut-être parce que la leur est courte, relativement courte, et qu'ils aiment aller puiser dans l'histoire, y compris le patrimoine européen, un peu un morceau de leur propre histoire. Quel est le rôle des Américains concernant les cloîtres ?
Alors ces Américains, effectivement, dès la fin du 19e siècle, un certain nombre fréquentent l'Europe, où ils vont se former, ils font un peu leur grand tour des capitales et des musées, et certains voient l'opportunité aussi d'acheter des morceaux de patrimoine européen. Par exemple, de celui de George Clay Barnard, qui est un peintre sculpteur américain, qui se forme dans des ateliers parisiens, mais qui consacre tout son temps libre à parcourir la France, et qui va acheter des quantités de sculptures, d'objets de l'époque médiévale et les rapatrier aux États-Unis, à New York.
Au point même de faire aujourd'hui un musée des cloîtres.
Tout à
Alors, c'est pas
fait.
lui, mais c'est l'origine en tout cas.
Voilà, puisque ce collectionneur va ouvrir une sorte de grand entrepôt à New York, et il va remonter à l'intérieur des éléments d'architecture et ouvrir à la visite. Hein, c'est une attraction pour montrer un peu aux Américains ce qu'est le patrimoine médiéval. Et ça va inspirer un milliardaire Rockefeller en 1925. Il va racheter toute la collection de Clive Barnard pour 100 000 dollars et il va financer la reconstruction. La construction même au bord de l'Hudson de ce qu'on appelle le musée des cloîtres, donc qui est une sorte d'abbaye créée de toutes pièces où on va remonter ces éléments d'architecture de l'Europe.
Donc au cœur de New York, il y a un musée des cloîtres qui sont les cloîtres européens que nous connaissons les uns et les autres,
Voilà,
peut-être.
tout à fait, voilà, notamment celui de Trie, de Saint-Michel-de-Coucha, voilà, qui sont tout à fait remontés et visibles à New York de nos jours.
Thibaud de Rouvray, ma dernière, toute dernière question, c'est ce cloître du jardin Masset sur lequel vous avez écrit un bel ouvrage paru au Jour des Arts, hein, l'éditeur Jour des Arts. Et ce cloître du jardin Masset de Tarbes, est-ce qu'il résume un peu aussi l'histoire que vous venez de nous dépeindre, nous écrire avec vos mots?
Oui, ça en est vraiment un peu le condensé, l'illustration, puisque c'est à la fois un cloître lié à l'origine à l'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, qui a été beaucoup restauré au XVIe siècle avec des éléments d'architecture récupérés d'une autre abbaye. Et ensuite, on a ce cloître qui est abandonné au XIXe et qui est racheté par la ville de Tarbes et remonté dans le jardin, et ce qui nous permet aussi d'en bénéficier encore de nos jours.
Merci beaucoup pour ce rendez-vous sur les cloîtres. Et puis je rappelle que ce livre est très intéressant, Le cloître du jardin Masset, paru au Jour des Arts, signé Thibaud de Rouvray. Merci Thibaud, au revoir, à
Merci
bientôt.
Mathias, au revoir.